Et, les amis, on va voir dans cet épître de Jacques, c'est la première église, hein, où Jacques travaillait comme responsable, cousin de Jésus. On va voir, souvent il y a le mot frère. On va aller dans l'épître de Jacques, si vous voulez bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que chacun trouve, à tour de rôle, sans se couper la parole, l'expression « mes frères » et ce qu'il dit juste après Jacques. Vous allez voir qu'il y en a un paquet. Mais c'est extrêmement important parce que ça montre la façon dont on doit vivre entre nous. Ça montre la façon dont on doit... tous les paramètres d'une vraie vie communautaire. Oh, on peut prendre tout l'évangile de Matthieu. Il y a 5 discours dans l'évangile de Matthieu qui nous expliquent comment vivre entre nous. Mais on va voir Jacques aujourd'hui. Donc, je compte sur vous. Je vais commencer le premier, et puis vous allez voir, chaque fois il y a des expressions mes frères, il suffit de parcourir un petit peu, très lentement l'épître, ça forcera un petit peu à faire attention, on n'est pas dans la robotique, et pratiquement, on va voir que l'expression mes frères n'est pas un jeu chez Jacques, c'est pas un jeu, et vous savez qu'en Occident, c'est trop souvent un jeu, On y reviendra. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Vincent l'a lu tout à l'heure. Alors pour ne faillir en rien et pour que cette patience puisse réussir, eh bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il faut donc la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et lui sera donnée. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Pour réussir une vie de patience, parce qu'entre frères dans une église, il faut beaucoup de patience, comme dans une famille, autrement il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de perfidie, il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup d'endurcissement, dans les familles comme dans les églises, si on n'a pas écouté ça, si on ne le met pas en pratique, mais on ne sait pas le mettre en pratique sans le don de Dieu, sans le don de la sagesse qui donne sans reproche. Ben oui, parce qu'on est tous pécheurs et à tour de rôle, on a chuté, on a manqué de patience, etc. C'est une véritable épreuve, n'est-ce pas, que de vivre ensemble. Il n'y a que Robinson Crusoe qui ne se disputait avec personne. Et le ver solitaire dans l'intestin des gens. Il se dispute avec personne, le ver solitaire. Alors, vous choisissez, si vous voulez bien, une autre expression, mes frères, et on va avancer comme ça. Ou le mot frère, Le mot frère, je pense qu'il y en a une pas loin déjà. S'il vous plaît. Donc au verset 9, regardez le verset 9.
Le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe.
Voilà. Donc ce qui se passe dans l'église, il y a comme un ascenseur, il y a une balance, pour arriver, sans doute par l'effet de l'amour, par l'effet de la prière de tous, un équilibre. Il n'y a personne qui reste au fond du gouffre et il n'y a personne qui est au-dessus, jugé au-dessus pour mépriser, dominer. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose quand même. Mais je pense que ça vient de ce qu'on a demandé, là, cette sagesse infinie. Autrement, l'Église est pleine d'épreuves irréductibles, qui ne sont pas maîtrisables, parce que la chair domine et l'Esprit-Saint n'agit pas. Continuons. Est-ce qu'il y a encore une autre expression? Regardez au verset 16.
Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Voilà. Donc mes frères, toujours, hein, toujours mes frères. C'est pas qu'il fait de la littérature, hein. C'est l'Église pilote qui doit démarrer pour que les autres démarrent et la regardent et passent les jeunes, hein. Et donc pratiquement, il dit déjà, on est en train de se planter, ne vous y trompez pas. Donc évidemment, Jacques, il est sage, parce qu'il sait très bien que l'égarement est le propre de l'homme en général, même converti. Hein? Et la grâce excellente, vous voyez, c'est déjà quoi? D'être engendré selon sa volonté par la parole de vérité. Alors, les amis, une église où les membres attendent le dimanche de s'asseoir pour entendre parler de la Bible, qui parfois même au culte ne l'ouvre pas, et puis que la semaine ne l'ouvre plus, ne s'alimente pas la parole, est-ce qu'il n'y aura pas un problème? Est-ce qu'ils sont vraiment engendrés par la parole? Puisqu'ils ne demeurent pas dans la parole. C'est assez lourd de conséquences, ma question. Cette habitude de négliger la chose sacrée, c'est-à-dire la parole de Dieu, la chose sacrée que Dieu nous a donnée pour nous régénérer, pour que la volonté de Dieu se fasse en nous, cette habitude détruit, cette mauvaise habitude détruit toute église. Il n'y a aucune église qui peut résister au péché s'il n'y a pas cet amour de la parole. Il faut faire attention. Faire attention. Et il faut simplement demander pardon et se corriger. Et demander l'aide des frères. Moi, je vois sur la semaine, je fais au moins, pour le moment, une douzaine d'études bibliques. Mais oui, plus ça avance, plus il y en a. Pourquoi ? Parce que je me rends compte, moi, quand je vais crac-badaboum, hein, je sortirai les pieds par devant d'ici, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester qu'une chose, ceux qui sont dans la parole et ceux qui sont à côté. Et moi, j'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre. Et chacun de nous doit savoir ce qu'il veut, de quoi il veut se nourrir, où il veut aller. Chacun de nous sait en plus, hein, c'est ça qui est important, on ne peut pas vivre la fraternité d'une église sans cette base commune. S'il n'y a pas cette base vivante, il n'y aura pas jamais de vraie fraternité. Ça sera un grand cirque, comme il y en a beaucoup partout sur la terre. Continuons. Au chapitre 2. Ah, la colère, hein, au verset 19. La colère, hein. Madre mia, la colère. Hein. In pestada. Hein, la colère, c'est un... En pestiféré, c'est le poison, ça, la colère. Quand on se donne le droit à la colère, on détruit. Il ne faut pas entretenir dans l'éducation des enfants la culture de la colère. Il faut leur montrer que c'est dévastateur. Moi, j'ai été effrayé quand je sortais. J'ai passé toute la journée au tombeau à Garden Temple à Jérusalem. Je voulais passer là le jour avant de reprendre l'avion, enfin la nuit avant de reprendre l'avion. Et pratiquement, bon, il y a mon copain Mike qui vient, Michael Benley qui vient me rechercher, les autres étaient plus loin, dans Jérusalem, à pied. On traverse une petite rue où il n'y avait que des écoles pour musulmans. Des écoles anglaises, anglicanes, etc., catholiques pour musulmans, pour tous les garçons, de tous les âges. Il y en avait un paquet, hein. Et pratiquement, on donne des petits traités en arabe et sur Jésus. Puis on continue notre chemin, on va dans l'auto, on était tous les quatre, on repasse dans la rue. Une émeute, madre mia, une émeute, tous des gars entre 16 et 20 ans, un rictus de haine, il y en avait des centaines, un visage dévoré par la haine. Et ils en tenaient quatre par la gorge. Mais c'est pas rigolo, hein. Pendant 3 mois j'ai eu les images pendant mes nuits quand je pensais. Je me dis, ils ont été éduqués à haïr. Ils ont été éduqués à ne pas savoir que la colère est mauvaise. Ils ont été éduqués à ce que la colère est un droit. C'est la dignité de l'homme. Ben, c'était pas terrible. Mais en attendant, nous, on devait passer. C'est un sens unique. Et comme on avait une plaque, il y a deux sortes de plaques en Israël, hein, les vertes, pour toutes les populations arabes, et l'autre, la jaune, un peu comme les luxembourgeois pour les Israéliens. On avait loué une voiture à Tel Aviv, on avait une plaque jaune. Et pratiquement, on avance dans la foule. Pas moyen, sans interdit. On arrive là-dedans, il était trop tard. Hein. Alors, moi, tout de suite, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, j'ai déjà été menacé de mort plusieurs fois, je dis, il faut demander au Seigneur de prendre autorité de l'événement. Tu avances à 15 à l'heure, tu n'arrêtes pas, tu n'accélères pas, tu ne klaxonnes pas. Nous demandons au Seigneur que la foule s'écarte et nous laisse passer, qu'il ne nous voie pas. Ça s'est passé comme ça. Ils ont continué dans leur rage. C'était une véritable rage collective. On est passé, on est sorti. On a remercié le Seigneur. Mais les quatre pauvres gars qui étaient tenus, c'était aussi des Arabes parmi les Arabes. Et pourquoi? Pour une femme, pour une fille, pour un des traités qu'on avait distribué? Pour, tiens, c'est des Arabes plus ouverts à Israël? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Pour des jalousies de famille? La colère, en aucune sorte, n'est acceptable par Dieu. La colère n'est pas un droit. Seulement Dieu a une colère juste. Il n'y a jamais de haine dans la colère de Dieu. Il n'y a que la justice chez l'homme. C'est la source de toutes les misères, la colère. Alors, vous vous imaginez dans l'église, voilà des gens qui se pétaient des colères et tout le reste. Hein? Mais où ça va une église où il y a des coléreux, il y a des rancuniers? Il y a des gens qui explosent à tout bout de champ. Donc vous voyez les amis, hein, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Avec douceur, la douceur de Jésus, la douceur de notre Seigneur. La maîtrise de soi. Une grande qualité que le Saint-Esprit veut conférer à tous les enfants de Dieu. Malheureusement, sur la terre, il y a d'autres cultures qui exaltent la colère. Et c'est comme ça, pour beaucoup de jeunes qui ont été éduqués dans des familles, comme des jeunes que j'ai vus dans cette rue-là, à Jérusalem, et qui vont dans le djihadisme. Ce n'est pas un problème. Ils ont été... La colère est légitime. L'emportement est légitime. Et ils pensent que c'est même bien. Si c'est bien... Ça peut tourner très vite mal partout, hein? Parce qu'on confond le bien et le mal. Continuons, mes frères. Chapitre 2.
Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il y a entre dans votre assemblée un homme avec un âne d'or et une vie magnifique. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérable. Un pauvre misérable de vertu. Si tout membre regarde vers celui qui porte la vie magnifique, lui dit toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, prends la vie, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises.
Voilà. Donc, c'est très fort ça, c'est extrêmement très fort, il faut faire attention, vous savez. On prend vite l'habitude de se donner bonne conscience. Hein? Et il arrive quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 3 mois, qui pue, qui a logé on ne sait où. Qu'est-ce que vous faites s'il est ici parmi vous? Vous serrez vos narines, vous changez de place, ou en tout cas vous sortez, vous avez respiré avec le diaphragme, vous n'avez pas respiré. Hein, le prana, comme il y a un gars qui s'était converti, qui avait été dans le bouddhisme et tout ça, le prana. Mais bon, pratiquement, on arrive très vite à détester des gens pour des questions d'odeur, des questions d'habit, d'apparence. On n'a pas le regard de Dieu sur les autres et ça, c'est très dangereux. L'autre jour, je sortais d'une banque au Luxembourg parce que je voulais aider quelqu'un. Et pratiquement, je sors, je vois un gars, il me demande 2 euros. Je regarde sa tête, je dis, il a sûrement besoin de plus que 2 euros, le pauvre gars. Il n'a jamais été habitué à mendier, celui-là, tout de suite. Je lui donne 10 euros. Ah non ! Je dis, t'as besoin encore de plus que ça, je le sais bien. Rien qu'à voir ta tête. T'as jamais mendié de ta vie, toi. T'es coincé. Oui. Écoute, je m'en vais là-bas à la banque avant que ça ferme, et si je te retrouve, on se parlera. Donc, pour finir, je sors de la banque et je me dis où est-ce qu'il est. Et comme il était assez grand et qu'il était là, comme ça, coincé, engoncé, le fait de mendier, n'avoir jamais fait ça de sa vie. Alors, on a causé, et en fait, il avait un bac plus 5, ce gars-là, et il avait, le papa avait quitté la maman, il avait des enfants, et pratiquement, il avait pris l'habitude de travailler pendant les études, d'aider toute sa famille, de se consacrer totalement à sa famille. Et puis un jour, il marie quelqu'un, une jeune femme de la Guadeloupe, et le jour de l'achat de la maison, eh bien pratiquement, chez le notaire dit, il mettait le nom des deux, non, non, mettez tout au nom de ma femme. Il avait cette propension à toujours se sacrifier, à se donner pour, totalement pour les autres. Et ça manquait de prudence, bien sûr. Et le notaire a mis seulement le nom de la femme. Et puis, au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que madame n'aimait pas trop monsieur. Et elle a appelé les gendarmes, hein, mis dehors. Et il travaillait dur. Il est cuisinier au niveau, hein. Au niveau. Il pourrait passer à la télévision dans tout ce qu'on voit là, le tape à l'œil des cuistots. Alors, pratiquement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il le place en maison et il va quand même continuer à travailler. Il dormait dans un corridor à Echeralzette, au fond d'un corridor, à terre, sans laver et tout, et il va travailler. Puis un jour, il a pété les plombs, forcément. Et c'était comme une crise de nerfs et le patron en a pris pour son grade. Et plus tard, il a été lui demander pardon, même à genoux. Et le patron a dit, tu m'as humilié devant tout le monde, je ne te reprendrai jamais, même pourtant que tu es le meilleur élément de chez moi. Et donc, il n'a plus d'adresse et il n'a plus de patron. Donc, il n'a plus de revenus. Et ce qui se passe, je dis, écoute, qu'est-ce qu'il te faut? Tu réfléchiras bien, tu me téléphoneras plus tard, je te donne mon numéro. Et il me téléphone après, il m'a dit, j'ai trouvé une chambre pour 15 jours au-dessus d'un café à Echeralzette. Et la patronne veut bien que je dise à tous les gars où je vais chercher du travail, donner l'adresse là, pour 15 jours. Et combien te demande? 100 euros. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle me voyait souvent passer là à la gare et tout. Et elle s'est dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous demandez toujours. Vous avez toujours mendié comme ça? Non. Alors il explique sa situation. Et je dis, écoutez, je vous laisse une chambre. Et ça vous permettra peut-être de retrouver un travail. Et cette patronne de café, qui a eu bon cœur, tout compte fait, a tendu une perche, il fallait 100 euros. Il les a, forcément, de ma poche, parce que je ne peux pas m'endormir, en sachant que cet homme va mourir comme un rat. Et ce qui s'est passé, il est là-bas et il va chercher du travail. Et il m'a dit, je vous les rendrai. Vous savez, il y a des gens qui le disent et ils le font. Et les gens qui le disent ne le font jamais. Ça se sent, ça se voit au regard. Mais ce qu'il y a, je dis, qu'est-ce que tu as dans ton sac là? T'as mangé? Ouais, j'ai des habits, j'ai deux tranches de pain, c'est tout. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On regarde, ben, j'ai une Bible. Eh bien, tu vas la lire tous les jours. Tu vas lire les évangiles tous les jours, mon ami. Et tu remonteras la pente. Tu as compris? Et moi, chez moi, je prierai pour toi. Lis les évangiles, tous les jours, s'il te plaît. Ne la laisse pas au fond de ton sac. On se reverra dans 15 jours. Son prénom, c'est Kevin. Si vous avez quelqu'un comme ça qui vient s'asseoir dans l'église, ou quelqu'un d'autre, une prostituée, qui veut fuir le monde de la prostitution, hein? Ou un étranger, hein? Un étranger qui vient d'un autre pays, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi l'église de Jésus-Christ? Regardez-le bien, hein? Que, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Pas de ségrégation. Quand j'ai fait l'Institut, j'ai ramassé des critiques terribles, terribles, méchantes, pas de l'Institut, mais de quelqu'un dans une église où j'étais. Parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés ici. Et donc, on était venus dire que ma femme et moi, on accueillait des personnes, il y en avait jusqu'à 35 dans la maison, et pratiquement, y compris notre famille, et pratiquement, qu'on faisait des œuvres pour être sauvés. Et donc, on était sur le point d'être virés. Parce que c'était tellement, ça revenait, c'était une rengaine. Heureusement, d'autres dans la même église tenaient, nous aidaient. et donner de l'argent tous les mois et nous aider. Ça a été un combat terrible. Et je me suis dit, Seigneur, je suis à l'Institut avec toi. Qu'il arrive quoi que ce soit, je suis là, tant quand même pas dehors. Je vais étudier pour toi, pour te servir. C'est normal que l'épreuve soit là, Seigneur. Je le savais déjà depuis longtemps. Comme le dit l'épître de Pierre, l'épître de Jacques. Alors, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un des directeurs est venu ici, l'air de rien, suite à ces critiques-là. Et il m'a dit, j'ai été tellement touché par les personnes qui étaient là, que c'est le jour où j'ai appris à aimer les pauvres. Et il était pasteur depuis 25-30 ans. Est-ce que nous n'avons pas tous besoin de conversion dans une église? Quand il est retourné, il a fait une étude biblique pour fonder une autre église sur les pauvres, en anglais, il me l'a envoyé. Et, vous savez, aux États-Unis, vous avez 500 noirs et 10 blancs. Ou alors 500 blancs et 10 noirs. Ou 3 noirs. Ok, aux États-Unis, c'est souvent comme ça. Bon, pratiquement, lui, il a été trouvé un pasteur noir et ils ont fondé une église. Kif kif. Il y en a autant des deux sortes. Et entre les deux, tous. Hein? Entre le noir et le blanc, il y a tous les coloris possibles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est que le témoignage change des cœurs. C'est que la façon de vivre change des cœurs, plus que les paroles. Et donc, c'est ça que Jacques veut pour son Église. C'est la façon de vivre qui témoigne de l'amour de Dieu pour les hommes. Et Jacques ne veut pas d'une fausse Église. Ni Dieu. Ni Dieu. Et j'espère, ni nous. Continuons. Mes frères, chapitre 2, verset 14. Quelqu'un veut lire? Quelqu'un qui a une forte voix pour que ça soit enregistré?
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Ça va. Donc, une foi sans action, c'est une imposture. Hein? Une foi sans engagement, c'est pour ça qu'il y a un beau livre, hein? Après les évangiles. Les actes des apôtres, ça veut dire les engagements. Les actes des engagements. Et allons un peu au début des actes. J'ai été en Afrique, j'ai dû prêcher. Ils m'avaient supplié d'aller prêcher. Et puis, en allant dans les églises, j'ai vu tellement de choses que j'ai pas pu m'empêcher, au bout d'une semaine, de demander à plein de gens de se réunir, de prier, et d'un peu de revoir la façon comment ça se passait. Au début des actes, quand Pierre a prêché, à trois reprises, il y a eu beaucoup de conversions. Énormément. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ces gens-là. De profond. Un changement de mœurs. Pas seulement un changement de religion. Ou d'idées. Hein, de mœurs, de comportement. Alors, dans le chapitre 2, repentez-vous, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par plusieurs autres paroles, il est conjuré de les exhorter, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ça veut dire quoi? D'une civilisation remplie de perversité et qui n'a pas la sainteté. C'est ça que je veux dire. Un peu plus loin, au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, donc la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ce qu'on appelle la Sainte Cène, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Et ça n'existe plus? Eh bien, vous savez, ça fait peut-être 35 ans qu'on a accueilli des personnes, et les 20 dernières années, 25 dernières années, Il fallait un budget entre 20 et 45 000 euros. D'où il venait? De mon pouce, du fond de mes poches? Non. De ma femme, de mes enfants? Non. Il y a des chrétiens de France, d'autre part, qui ont eu de l'argent. Une enveloppe avec 50 euros, une autre, un chèque de 100 euros. Et de fil en aiguille, on a parcouru notre chemin en partageant avec les autres. Et vous croyez que parfois, oulala, encore des factures, oui, pas de médicaments pour les, on a la grippe, on a scié ça, pas de sous pour aller chez le docteur. Oh, pas de sous pour mettre dans le réservoir. Mais la première des règles, c'est celle de Dieu, c'est pas la crainte et la peur. La première des règles, c'est celle de Dieu. Et Dieu répond lui-même. Regardez dans Jacques ce qu'il a été dit. Hein? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture et chaque jour, ben non, hein, il faut que je paye mes factures. Hein. Alors je sors de l'église, ça va. Et puis il n'ose pas répondre non, parce que de toute façon ça ne changera rien. Donc, l'église, et j'ai vu ça en Afrique beaucoup, c'était un gros problème pour moi, je vais vous le dire après. Il y a un autre moment où il y a beaucoup de conversions. Un peu plus loin. Est-ce que vous avez vu ce texte où il n'y a plus d'indigents? Vous avez vu ce texte où dans l'église, il n'y a pas d'indigents? Nous allons lire un peu plus loin, au chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ah, vous avez vu, ça c'est des frères là. Un cœur et une âme. Ça, on voit déjà comment se définit des frères et sœurs. Et ils sentent les autres, ils les ressentent. Ils n'ont même pas vu peut-être de 15 jours, ils savent déjà, en pensant, en priant, ce qui se passe chez l'autre. Et ils ne sont pas indifférents. Il y a un lien de communion profond. C'est pas de la télépathie, les amis. C'est pas de l'énergie cosmique. C'est le Saint-Esprit. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent sans propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quoi un indigent? C'est quelqu'un qui n'a pas de toit. C'est quelqu'un qui n'a plus à manger. C'est quelqu'un qui ne sait plus se laver. Quand William Booth a fondé l'armée du salut, il n'a pas commencé par réunir tous les riches. Il a commencé tout seul. Et les trois devises de William Booth pour l'armée du salut, soupe, savon, salut. Soupe, donc la nourriture, savon, la propreté, parce que salut, Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Et donc, moi je visite quelques personnes sur le coin de Metz, c'était des gens pas très intéressants pour les églises. Pas très intéressants. Souvent en psychiatrie, souvent décachés. Drôle d'allure, un peu le souk dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je savais, dans le cœur de ces personnes, il y avait Jésus-Christ. Je suis monté régulièrement à Metz. Je ne dis pas tous les jours, parce que ce n'est pas possible, mais au moins tous les 2-3 mois. Pendant des années. Mais vous verriez la transformation maintenant. Ces personnes ont trouvé une équipe de l'armée du salut. Ils y sont heureux! Ils ont trouvé une fraternité, une simplicité, et la maison est propre. Et la personne ne pue plus. Et les autres que je visite, ils sont propres aussi. Alors, c'est quoi ça? Le miracle de l'amour et de la foi, ensemble. Ensemble, jamais séparés. Et le miracle du Saint-Esprit. Et bien sûr, j'y allais, je lisais un peu un texte de la Bible et tout. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que de temps en temps, ils viennent l'être. Oui, les amis. Dans ces gens pauvres, hein, avec 20 euros. 15 euros, 30 euros, pour nous. C'est pas ça l'ascenseur? L'ascenseur qui monte et qui descend pour toute une église? C'est pas ça l'œuvre du Saint-Esprit? Et comment voulez-vous que je puisse dire qu'autrement? C'est pour ça qu'on a pu accueillir des personnes ici. Parce que ces personnes comprennent que l'ascenseur, quand il y a une cage qui monte, il y en a une qui descend. Hein? L'humble a été glorifié, le riche s'est humilié. Eh bien, la personne a trouvé que quand elle avait 100 euros dans sa poche, après avoir vécu tellement de difficultés, elle était trop riche. Elle m'en envoyait 20 ou 30. Et là, ça c'est la vérité du Seigneur. C'est pas de la folie psychiatrique. Pour le monde, c'est de la folie. Un accent euro ne va quand même pas encore aller les donner. Alors, les amis, dans les actes des apôtres, il n'y a pas d'indigents. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont mis ça en œuvre. Quand je suis allé dans certaines églises au Bénin, j'ai vu des pasteurs qui prêchaient, tout le monde aurait des bénédictions, des grosses assemblées. La première église où j'étais, ça m'a vraiment révolté, mais enfin. Alors j'ai pris le micro, j'ai dit quelque chose. Ils m'ont arraché comme ça pour m'empêcher de continuer, les imposteurs. Mais ce qu'il y a, c'est pas grave. Devant le Seigneur, j'avais fait ce que je devais. Et les pauvres, là, en face, ils savaient qu'il y en avait un autre qui pensait autrement que leur imposteur. Alors, pratiquement, ce qui se passe, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont rien, ils sont pieds nus, ils n'ont qu'un vêtement. Ils font 2-3 heures pour venir au culte. Ils retournent dans le noir. Il n'y a pas de pont sur les rivières. C'est la misère, hein. Ils viennent avec les gosses, ils viennent vieux, ils viennent... Alors, les amis, ils sont là, ils sont des centaines, il y a des églises, il y a plusieurs milliers de personnes. Ça ne mérite pas un respect sacré du peuple de Dieu. Et qu'il n'y ait personne qui marche sur leur tête. Mais oui. Et pratiquement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, mes chers amis pasteurs, vous allez essayer d'avoir des terrains. Vous avez de l'eau, du soleil, vous avez une bonne terre. J'ai été voir la terre, j'ai regardé les vers de terre. Tout ça, je suis fils de cultivateur, je fais un jardin. Là, Dieu a donné des richesses. Il ne faut pas prêcher qu'il va venir un riche vous donner des comptes en banque et tout ça. C'est encore les 2-3 mêmes qui prendront tout. Là, la richesse est là. Vous allez faire des jardins pour toute l'église. Vous allez apprendre aux gens à faire des jardins. J'ai été voir les jardins, ils s'y prenaient mal. Ils brûlaient tous les arbres, ils incendiaient tout. Et ils tuaient la vie. Et puis ils semaient entre les souches, les branches. Alors, pratiquement, je dis, puisque c'est un blanc qui le dit, si c'est Dieu qu'il veut, demain il y aura un noir comme vous qui le dit. Et le lendemain, il y en avait un jeune gars de 30 ans, agronome, qui depuis toute sa jeunesse avait cette conviction. Alors, je lui dis, mon ami, c'est toi qui prends les devants. Moi, je suis de passage, comme les oiseaux sauvages. Dis-leur ce qu'il faut faire dans les églises. Alors, il est là, il s'est engagé à former des jeunes aux bonnes méthodes. 4 récoltes par an. Et pourquoi est-ce qu'il y aura encore des gens qui auraient faim dans une église où il y a 4 récoltes par an? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et il faut que les pasteurs voient où sont les bénédictions de Dieu. Le courage des hommes, des femmes dans l'église, la bonne terre, le soleil et l'eau, c'est ça les richesses. C'est pas les comptes en banque, les sous qui viennent de je ne sais d'où, qui trahissent, qui font changer les cœurs. Reprenons l'épître de Jacques. Quelle heure avons-nous ? Midi moins 10. Alors, nous continuons au chapitre 3, si vous voulez bien, quelqu'un une bonne voix. Ah, Jacques ? C'est pas Jacques de Gomery ou Jacques de Bruxelles ? Chapitre 3.
Je crains qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
Donc, c'est quand même assez étonnant. Dans le même chapitre, on parle des personnes qui ont une responsabilité dans la parole, qui enseignent, ce qu'on appelle les anciens, dans d'autres églises pasteurs, mais les anciens. Et puis, tout de suite après, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, quelque part, ce n'est pas du hasard. Quand il y a quelque chose, il faut regarder le contexte. Le contexte. Déjà, avant, vous voyez Rahab, la prostituée. Hein ? Quand il vient quelqu'un qui est un pêcheur, un vétéré, qui a pris l'habitude, c'est celui qui va prêcher, est-ce qu'il a déjà de la considération ? Hein ? Vous savez, quand les gens sont sortis de chez Rahab, il y avait une écharpe rouge, tu la mettras à la fenêtre quand on viendra. Et tu seras épargné. Il faut avoir de l'amour pour ceux qui ne nous ressemblent pas. Déjà chez quelqu'un qui prêche. L'amour pour ceux qui sont perdus. et pour ceux qui ne ressemblent pas. Si quelqu'un n'a pas ça, il ne doit jamais prêcher. Parce qu'il va mettre la peste. Ensuite, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, personne n'est parfait. Mais si quelqu'un arrive à maîtriser son bout de beefsteak, là, et à ne pas mettre la pagaille, à ne pas dire des méchancetés sur les autres, et ne pas mettre la tempête, il peut avoir la possibilité de prêcher. À ce moment-là, allez, il y en a 15 qui veulent prêcher dans une église. Il y a beaucoup de risques. Est-ce qu'ils vont tous pas broncher, tous se maîtriser? Est-ce qu'ils ont tous l'amour des pauvres? S'il y en a 2 ou 3, c'est déjà s'ils se concertent entre eux et qu'ils arrivent à avoir les mêmes richesses spirituelles, il y a des chances que ça réussisse, ça porte beaucoup de fruits dans l'église. Bon, pratiquement, il n'y en a peut-être que 2 dans l'église, ou peut-être qu'un. C'est quand même une lourde responsabilité de ne pas mettre des gens sur un podium comme au football, aux Jeux Olympiques, parce que moi, je suis malin. Je connais bien la Bible. Ce n'est pas une question de connaître la Bible. C'est une question de la vivre. Vous voyez? C'est une question de la vivre. Parler, tout le monde est capable de parler, tôt ou tard. Je vais vous donner un exemple pour vous dire que l'imposture de la parole existe. On revenait de Montmédy d'un culte dans la voiture et les enfants disent « une telle personne prie tellement bien, tellement bien ». Et je dis, vous êtes sûr? Vous n'avez rien remarqué? Alors, il y a 6 enfants derrière nous, et Marianne et moi. Je me dis, 6, il y a des oreilles et des cerveaux différents. Et puis, Dieu, on prie pour que Dieu agisse dans les esprits des enfants. Hein? Ben, sa voix tremble. Ah oui? Je savais, j'avais remarqué tout ça. Alors, je dis, elle prie bien, mais sa voix tremble. Pourquoi est-ce qu'elle tremble? Pensez à Jacques, hein? Les démons ont eu aussi une croix, mais ils tremblent. Hein? Dans l'épître de Jacques. Alors, pratiquement, mais je n'aurais pas dit. Ça aurait apparu comme une condamnation. Mais pourquoi est-ce qu'elle tremble? Elle a peut-être peur qu'il y en a un autre qui sort. Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur de Dieu si elle prie bien? Nous, on ne sait pas. Bon, on s'en va. Et le lendemain, je vais en visite là-bas. Et donc, cette personne, je vais chez la famille et tout. Et pratiquement, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se voir tous les deux? Tu pries excellemment. Mes enfants sont très contents. Tout le monde est content dans l'église de ta prière. Mais tu trembles. Est-ce que tu n'aurais pas peur de Dieu? Elle se met à pleurer. Et elle me dit qu'elle avait entendu l'évangélisation à Genève, au bord du lac Léman, et que le même jour, quelqu'un lui avait mis la main, et puis sur la tête, et puis qu'elle avait commencé à prêcher. A annoncé l'évangile. Elle avait été baptisée le même jour. Et après, ce qui se passe, à Longwy, elle montait sur les tables des marchands, elle prêchait l'évangile. Et puis après, un peu après, elle retombait dans une discothèque avec des hommes, et elle retombait dans une maison de prostitution, un peu après. Donc c'est un feu de paille. La maison avait été garnie, embellie, mais l'homme fort n'était pas rentré. Le Saint-Esprit n'était pas là. Elle avait entendu la parole de Dieu, elle était toute contente, en France, tout azimut, et tout le monde applaudit. On la baptise. Un de plus de sauvés. Reste à voir si la personne est sauvée parce qu'elle a été mouillée. Hein? Alors pratiquement, ce qui se passe, elle me dit, je lui dis, mais comment ça se fait que tu peux prier aussi bien, puisque tu te rends compte toi-même que ça ne va pas? Mais j'ai trouvé des livres, là, ce jour-là, je les ai lus une fois, ils sont toujours dans ma tête. Alors Satan donne le pouvoir de faire le perroquet. Satan donne le pouvoir de séduire par la parole. Il y a des beaux ramages dans les oiseaux sur la terre. Eh bien, c'est la même chose en prédication. Et donc, pratiquement, ce qu'il y a ici, il faut pouvoir maîtriser cette langue. Regardez au verset 6, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Eh bien, notre Jacques, il n'y a pas été par le dos de la cuillère, hein? Continuons. Où est-ce que vous voyez encore l'expression frère? Où est-ce que vous voyez encore l'expression frère dans les textes qui suivent?
Au 12, un figuier, mes frères, peut-il produire des amis? Une vigne, des figues. De l'eau salée ne peut pas nous produire de l'eau douce.
Non, par des images toutes simples, Jacques montre que si nous avons une véritable relation avec le Seigneur, il y a des fruits, comme Jésus les a annoncés. S'il n'y a pas les fruits, c'est des autres fruits, donc c'est qu'il n'y a pas le Seigneur dans la vie. Hein? C'est quand même important, vous voyez, parce que tout de même, les anciens, là, les gens qui parlent, il faut quand même, comme tous les frères et les sœurs, ils portent des bons fruits dans le reste. C'est pas tout de passer une heure à prêcher ou une demi-heure le dimanche. C'est la vie générale. Hein? Continuons. Est-ce qu'il y a des autres passages que vous voyez? Ou frères, mes frères.
Chapitre 4, verset 11.
4, verset 11.
C'est pas mes frères, mais si on parle mal d'un frère.
Et
ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain?
Ça, c'est très dur. Hein. C'est très dur à appliquer, mes amis. C'est un gros problème, ça. C'est une grosse épreuve au niveau spirituel. Vous savez ce qui est mis dans l'Épître aux Romains, chapitre 2. Hein? Regardez. Même dans une famille entre frères et sœurs, avec les parents, etc. La parole, des fois, on ne s'épargne pas. Hein? Hein? Comment voulez-vous que ça aille bien dans le monde? C'est déjà à petite échelle. Alors, en Romains, chapitre 2, homme. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Voilà. Alors, celui qui juge, bien sûr, regardez les traits de caractère qu'il a au verset 5. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Celui qui a l'habitude de juger, c'est parce que son cœur est endurci et impénitent. C'est-à-dire, il ne change pas lui-même. Il ne fait pas pénitence devant Dieu. Il ne se repent pas. Et pour finir, il juge. Ça devient une ritournelle héroïque hein, pour tuer les autres. Mais vous savez que toujours, hein, quand on flingue quelqu'un, hein, vous savez, ça ne faut jamais oublier, un doigt sur l'autre, un contre Dieu, trois contre moi. Un sur l'autre, un contre Dieu, trois sur moi. C'est pour dire que c'est la mauvaise voie. Continuons.
Chapitre 5, verset 7.
Chapitre 5, verset 7.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
On continue encore un petit peu ici.
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voilà, merci. Donc, le juge est à la porte. On va aller voir dans Apocalypse, chapitre 3. Parce que on est à la même époque. Enfin, l'Apocalypse un peu plus tard. Mais il y a encore le problème du juge qui est à la porte. C'est comme si Dieu avait été mis hors de l'Église et qu'il est en train de toquer à la porte. Apocalypse, chapitre 3, vous allez voir l'Église de Laodicée. Bon, c'est une église, bien sûr, qui n'a plus de zèle pour Dieu, hein, c'est sûr, mais qui se croit, qui est convaincue d'être en ordre. Hein. Alors, ben oui, mais ça va vite, hein, aussi bien c'est pour moi comme pour d'autres, hein, ça va vite. Hein. On n'est pas brillant des fois. Hein. Alors, l'église est convaincue d'être, au verset 17, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et voilà. Hein? Mais qu'est-ce que c'est mis? Verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, c'est la même dialectique qui se passe. Ou le Seigneur est dans l'église, ou il est dehors. Et ça, c'est dur à prendre comme raisonnement. Ça, c'est, avec cette pensée-là, on est capable de s'analyser et de se remettre en question. Si on n'entend pas, on ne se met jamais en question. Et le pauvre Seigneur mis à la porte. Mais c'est un juge en plus. Quand il revient, c'est le juge. Il n'agit plus en tant que le berger des âmes. Il vient, juge. Alors, regardons bien, retournons à Jacques. Reprenons ce texte. Reprenons Jacques, chapitre 5, au verset 7. Pourquoi faut-il être patient ? Il faut être patient parce que chacun de nous est un pécheur. Que chacun de nous avance, recule, etc. Hein ? Et que pour finir, à un moment donné, on n'y tient plus, il y en a un qui on ne le supporte plus pour telle ou telle chose. Mais c'est comme si quelqu'un avait semé un jardin, ça m'est arrivé l'année passée, je mets des oignons, je mets des semences de carottes et tout le reste, il fait sec 3 mois, oula. Alors, bien sûr, moi, je rentrais à la maison, et j'entendais, tu n'auras rien cette année-ci, tu n'auras rien. Bon, ça peut être vrai. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir quelque chose, Seigneur. J'ai envie d'avoir des... J'ai pas travaillé pour rien, Seigneur. Alors, je vais dans le grenier de ma mère, je prends de la vieille paille, et avec l'un ou l'autre enfant, je mets de la paille en disant, s'il y a de l'ombre, l'humidité du sol ne s'en va plus, j'arrose un coup, et ça va pousser. Comme des faits, ça pousse. Je soulève la paille, oh, les petits gérés poussaient. Et alors, ce qui se passe, les amis, c'est que j'ai arrosé 2-3 fois, puis je dis, stop, hein, ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller, ils vont pousser. Comme des faits, les oignons, pouf, 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 et puis tout compte fait, je me suis dit, Seigneur, tout était, dans mon esprit, c'était la sinistrose. Et puis, si je me laissais influencer, eh bien, c'était bon, je retournais tout le jardin, et c'était bon, j'étais en colère, j'étais dégoûté, en disant, zut, je ne fais plus de jardin, je vais acheter au magasin. Tant pis s'il est pulvérisé. Mais pratiquement, ce qui se passe, la patience, c'est quoi ? C'est de croire que Dieu agit dans le cœur de tous les croyants dans l'Église qui ont accepté Jésus, même si je ne vois pas de changement. Tiens, même si je ne vois pas que ça bouge. Voilà. Alors tu m'en demandes une forte, hein, Seigneur. Alors, il faut se mettre devant la glace de temps en temps et se dire, est-ce que j'ai bougé, moi, est-ce que j'ai changé ? Et le Seigneur, ça avance ou pas ? C'est facile de regarder les autres. Donc la patience, c'est avec soi-même, c'est avec les autres. Et à un moment donné, on se dit, mais Seigneur, tu es très patient avec nous. Hein. Parce qu'on mérite des sacrés coups de pied dans les pompes. Hein. Dans le derrière. Hein. Hein. Seigneur, tu es très patient. Alors, vous voyez, la patience de Dieu est notre exemple, notre modèle. Et dans l'Église, si les carottes ne poussent pas vite, si les poros ne sont pas gros, si les radis sont en train de filer, et puis ils sont durs comme du béton, etc. Les amis, dans une église, il y a des réalités comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Affermissez vos cœurs, verset 8. Regardez, affermissez vos cœurs. Il faut un cœur plus ferme, il faut des sentiments plus vrais. Il ne faut pas être déchiré par le jugement, déchiré par le doute. Il faut être comme le Seigneur. Qui sait que de toute façon il est venu sur terre pour sauver des pécheurs, des hommes perdus. Et qu'il faut la grâce pour les sauver. Les hommes ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Donc dans une église, nous devons être une source de grâce mutuelle les uns pour les autres par notre patience. Et par un cœur ferme. Ce n'est pas un cœur de brute, hein, d'orgueilleux, un cœur ferme. Ça va ? Et l'avènement du Seigneur est proche, il est à la porte. Il est à la porte de juge. Mais quand il voit qu'une église est comme ça, il toque. Et alors, il y a quelqu'un qui va ouvrir. Oui, qui vous êtes ? Ben, vous savez, là, vous avez votre carte d'identité ? Ben, lave-la. Et vous voyez les trous dans les mains ? La carte d'identité du Seigneur, c'est toi qui m'as fait ces trous-là. Est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que je peux rentrer ? Alors le Seigneur dit, je suis le bienvenu, je peux m'asseoir et manger avec vous. là le modèle de souffrance et de patience au verset 10. Pour l'Église, notre Maître, notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a encore dans ce texte de Jacques une autre expression, mes frères ?
12 et 19.
Donc ?
Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
C'était le verset ?
Le 5-12.
Chapitre 5, verset 12. Voilà. Donc, on ne doit pas faire de serment, on ne doit pas faire des promesses se reposant sur nous, parce qu'il n'y a que ce qui tient dans nos vies, que ce qui se repose sur le Seigneur. Qu'est-ce qui se tient dans nos vies ? Que ce qui se repose sur le Seigneur ? Nous, la chair. C'est foutu, la chair. Elle a été condamnée et crucifiée à la croix. C'est sur l'Esprit Saint qu'il faut construire. C'est sur Christ ressuscité. Alors, verset 19.
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin, c'est pas un petit peu, hein, et il s'est égaré, et qu'un autre l'y ramène, vous voyez, bon, pour le moment, j'espère que je ne vais pas faire du mal à quelqu'un ici, hein, mais il y a un ancien membre de l'Église qui m'a demandé de revenir, et qui m'a demandé que j'aille le voir. Et pourtant, il s'est bien roulé dans la farine, hein, pendant 25 mois. Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, je dois tenir compte de ça. Parce qu'autrement, j'ai envie de dire non. Parce que des fois, on en a marre. Et puis, on se dit, ça va marcher, ça, ou ça va être pire encore après. Etc. Donc, avec le raisonnement humain, ça devient une grosse soupe. Il faut regarder les règles de Dieu. Donc, moi, je vais prendre ce verset, je vais aller voir ce frère, et puis c'est tout. Je vais demander, qu'est-ce que tu en penses ? Une chose que je sais, c'est que ça m'est déjà arrivé d'être tout seul pendant une heure et de pleurer pour certains péchés que j'avais faits. Une heure, pas trois larmes de crocodile devant le Seigneur. Donc, il est possible que tout chrétien pleure un jour, et heureusement pour lui. Heureusement pour lui, il y a des tristesses qui mènent à Dieu. Qui déblaye tout ce qui est faux dans le cœur et qui nous rapproche de Dieu. Est-ce que dans la vie de Jésus, vous avez rencontré des gens, vous avez vu des gens qui le rencontraient et qui pleuraient en le rencontrant ? Est-ce que vous pensez des situations dans l'Évangile où quelqu'un s'est approché de Jésus et a pleuré ? Il a certainement pleuré de joie après.
La femme qui pleurait au pied de Jésus, qui avait pleuré de parfum.
Voilà. Cette femme qui pleurait au pied de Jésus, qui avait versé tout son parfum, une fortune, hein, pleurait. Et qui ? Oui. Écoutez, c'est difficile de porter. Il ne faut pas avoir un cœur de béton. On ne peut pas avoir un cœur mou, idiot. Hein ? Il faut un cœur vrai, un cœur dirigé par Dieu. Un jour, on m'appelle, je l'ai déjà raconté à certains d'ici, on m'appelle dans une maison, et c'est une maison de prostitution, on m'appelle. Il n'y avait pas d'autres prostituées, il y avait la patronne, en petite tenue, elle m'appelle, puis on va à la cuisine. Et puis, pratiquement, la tenue, c'était pas brillant, mais enfin, j'avais pris avant, et puis elle me parle, puis je dis, écoutez, si vous voulez que je revienne, vous serez habillé autrement. Ça va ? Je vous aime bien, Seigneur vous aime. Moi, je ne dis pas de mal de vous, je suis là pour vous écouter. Et la deuxième chose, j'espère que Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Ce qui est sûr et certain, C'est que j'étais deux fois. J'ai rencontré dans la rue 3-4 fois. Je l'ai embrassé. Et je vois des vieux de mon âge, ou plus vieux, ou un peu moins vieux. C'est toujours vers cet âge-là qu'on devient fou, hein, avec les femmes. Plus que les jeunes. Plus vieux, plus fou. Hein, plus obsédé, souvent. Si le Seigneur n'est pas là. Et pratiquement, dans la rue, à la poste, il me regarde en disant, il y a été aussi celui-là. Hein, vous voyez, ils font des yeux de merlan frit. Et moi, je regarde, c'est... court toujours mon lapin, je pense, en moi-même. Mais, écoutez bien, elle m'a demandé un jour pour arrêter ça. Et puis elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire d'autre. J'ai réfléchi, j'ai prié, puis je dis, tu viens avec moi à Arlon, je te présente au PME, Petite et Moyenne Entreprise, ils ont des stages de formation. Elle a fait les cours de comptabilité et de commerce, elle a obtenu un diplôme, elle fait autre chose. Elle n'est pas encore chrétienne. Est-ce que vous voudriez qu'elle soit parmi vous ici un jour chrétienne? Je pense qu'à partir du moment où toute l'Église est d'accord dans son cœur, elle peut venir. Elle peut venir. Vous comprenez? Pourquoi il y a des gens qui ont fait la moitié du chemin? Parce qu'ils attrapent la drouille dans l'Église, on va les massacrer du regard, on va se renseigner sur ce qu'ils ont fait et tout ça. Est-ce que Jésus a fait ça? Mais heureusement, parce qu'autrement, quand Jésus est ressuscité, personne n'allait croire en lui, aller voir. C'est Marie de Magdala qui a été voir et qui a fait la commission, qui a été de dire. C'est celle-là qui a dû insister. Heureusement, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut. Et vous voyez, quand Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il faudrait que la grâce surabonde dans l'Église aussi. C'est pas dans la théorie, de la doctrine, de la théologie. Ça surabonde dans une église. La grâce doit surabonder pour les pécheurs. Vous savez, quand j'étais dans le lac tout à l'heure, hein, il y avait plusieurs choses à la maison qui se passaient et je n'arrivais pas à retrouver mes notes. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est que tu veux quelque chose de plus simple. Eh bien, je vais vous le dire, ce qu'il veut de plus simple pour nous tous. Il faut que sa grâce surabonde pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans le péché aujourd'hui, sur la terre, de tas de manières. Vous aussi, hein? Attention. Tellement de gens. Comment voulez-vous qu'ils reviennent dans une église? Ils vont peut-être appeler le pasteur, aller voir sur Internet, mais ils ne vont pas oser rentrer. Parce qu'ils se sentent épluchés. Se sentent. Et il faut se sentir aimé par le Christ pour venir. Et donc, il faut une immense grâce sur une église. Il faut que la grâce déborde d'une église pour qu'il n'ait pas peur de venir. Pas plus que Rahab. Pas plus que Marie de Magdala. Toutes, elles ont eu confiance dans le Seigneur. S'il n'y avait eu que les apôtres tout seuls, ça je ne sais pas. Hein? Dur à cuire, il a fallu le Saint-Esprit et encore les forger longtemps. Eh bien, nous aussi, les amis, il faut être forgés longtemps. Forgés. Nous sommes des petits serviteurs. Nous avons besoin de grandir dans la foi et dans le service. Et dans l'amour. Besoin de grandir dans un authentique amour, tel que celui de Jésus. Amen.